Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous pour ce numéro 3 de Milk Bars, toujours une émission qui blablate de musique essentiellement par des fans de Zelda qui aiment en écouter et pour des fans de Zelda. Et je suis ravi de retrouver encore Link Kondo avec moi pour animer tout ça. Comment ça va ?
Bonsoir, ça va très bien et toi, The Link ?
Très très bien. Et j'espère que t'es heureux d'être avec moi aussi.
Oh bah bien sûr, troisième épisode, on est chaud, on a fait une bonne playlist.
Tout à fait, encore une sélection qui, on l'espère, va vous intéresser. Mais surtout, c'est la première fois que quelqu'un d'autre que nous vous fera écouter quelque chose ici, puisque nous avons augmenté le nombre de pistes passées. Cette fois, vous en aurez 10 et non pas 9 afin d'obtenir une place pour la proposition d'un auditeur ou d'une auditrice qui pourra aussi s'exprimer à son sujet.
On a commencé à recevoir des propositions et tout à l'heure, vous allez pouvoir écouter la première piste proposée par un auditeur.
Bon, Kondo, je vais préparer des verres de lait. Toi, tu t'occupes de leur parler de ta musique ?
Très bien, bah, je vais m'occuper d'eux. Alors, installez-vous confortablement, le lait arrive. Nous allons passer tout de suite un petit peu de chip tunes pour bien commencer. Bag Full of Kingstones, le morceau d'ouverture de l'album Hometown Heroes, un album sorti fin 2018 et produit par Overclocked Remix. Alors il fallait bien qu'on en parle un jour ou l'autre, hein. Overclocked Remix, il s'agit d'une des principales organisations qui promeut la musique de jeux vidéo sur internet, et plus particulièrement ses arrangements, en produisant et référençant sur son site des covers et des albums de plein de genres différents et de plein de jeux différents. Le site est une vraie mine d'or, si vous cherchez des albums de reprise, c'est probablement un des meilleurs coins où aller. Pour en revenir au morceau, donc c'était est un cover de musique de The Minish Cap. Les deux pistes composant le morceau étaient composées par Mitsuhiko Takano, compositeur du jeu.
Et c'est la première fois qu'on passe du The Minish Cap.
Et oui, bah il fallait bien qu'on en passe un jour ou l'autre.
Donc on espère que les fans du jeu s'en réjouissent.
Donc on entend un petit bout issu de la musique de la fête des Minish, mais le principal thème du morceau, il s'agit de la cité d'Hyrule The Minish Cap. Alors la cité d'Hyrule, c'est un coin où on va très régulièrement dans The Minish Cap, hein, c'est le hub, on peut dire, du jeu. Il y a plein de choses à faire, il y a des magasins, il y a des mini-jeux, des quêtes, et bien sûr, il y a des fragments du bonheur à assembler. Les fragments du bonheur, ce sont des petites pierres qu'on trouve un petit peu partout dans le jeu, et qui font des miracles quand on les assemble avec les pierres des autres. Et c'est de là que vient le nom du morceau, hein. Les fragments du bonheur s'appellent Keenstones en anglais.
Ah ouais, du coup, un sac rempli de fragments du bonheur, quoi.
Exactement, la cité d'Hyrule, c'est un petit peu le coin où on va dépenser toutes nos pierres du bonheur, voilà, pour accomplir des miracles. Donc pour en revenir à l'album, Hometown Heroes, c'est un album hommage au thème des villages de départ des JRPG. Enfin, il y a aussi quand même les thèmes des Zelda qui sont vraiment des JRPG, mais bref. Donc ce sont c'est les lieux dans lesquels on démarre le jeu, hein, généralement dans une ambiance calme et familière, qui nous fait dire qu'on est bien à la maison. C'est pour ça que voilà, l'album est vraiment très calme, très doux, un petit peu chill, mais pas trop. Pas trop non plus.
Ouais, c'est assez varié, hein, même s'il y a, je crois, deux pistes de Bossa Nova. Il y en a une des deux, c'est celle qu'on vous passe en fond, là.
Tout à fait, très détente. On trouve dans l'album du Zelda, du Suikoden, du Legend of Heroes, du Golden Sun, bref, une très bonne sélection de jeux, et le tout fait par une dizaine d'arrangeurs d'Overclocked Remix. Le tout vraiment du très très bon.
Je confirme.
Il confirme. Et donc, plus précisément, donc la piste que nous venons d'écouter a été arrangée par Lemon Electric, de son vrai nom Benjamin Hoffman, un musicien qui, comme son nom l'indique, est passionné d'agrumes, mais surtout de chiptune.
C'est une vraie info, ça, ou tu l'as complètement inventé pour la blague?
Complètement, non. C'est pas un hasard, hein, partout, son image, sa photo de profil, ses albums, tout ça, ça respire les citrons. Vraiment, il y en a de partout. Il a fait une vingtaine d'arrangements sur OC Remix, dont un excellent album de chiptune nommé Zest Quest, que je vous recommande, ainsi que la bande-son d'un jeu mobile nommé StarCat Adventure. Alors là, pas de citron, malheureusement, hein. Il a dû être bien triste. Enfin, il a dirigé la création de deux albums d'arrangements orchestraux de Zelda. L'un pour Oracle of Ages, du nom de Essence of Lime, et l'autre pour Oracle of Season, qui se nomme Lime of the Season.
Ah, mais c'est lui! Mais oui, ils sont connus, ces albums.
Ouais, ils sont assez connus, bah faut dire qu'en même temps, il n'y a pas beaucoup d'albums sur ces deux jeux.
C'est peut-être les deux seuls qui reprennent autant de pistes de ces deux jeux.
Probablement, en tout cas, c'est un des plus réussis. Il y a, je sais pas moi, une trentaine de pistes à peu près par album, tous de très bonne facture, et composés par pas mal d'arrangeurs.
Alors moi je vais commencer comme dans le précédent numéro avec un arrangement officiel. Je vais inaugurer un Zelda et ceux qui me connaissent un peu peuvent se douter duquel il s'agit, mais pas besoin d'en dire plus pour que vous compreniez, je pense que la musique suffira. Oui, c'est un arrangement du thème principal de The Legend of Zelda Triforce Heroes, le dernier Zelda portable sorti à l'heure actuelle, et que beaucoup de monde a sans doute malheureusement oublié.
Eh bah c'est bien dommage, hein, mais franchement Zelink, tu m'épates, tu as quand même mis 3 épisodes pour passer du Triforce Heroes.
Ouais, parce que je fais partie de ceux pour qui c'est pas le cas, je ne l'ai pas oublié, mais faut dire que j'ai une affection particulière pour lui. Que je caricature fréquemment, parce que bien sûr que je pense pas réellement que c'est le meilleur Zelda de tous les temps, mais disons que j'ai une affection pour ce jeu, pour les bons moments qu'il m'a fait passer entre potes, parce qu'il est pas du tout ouf en solo, mais il peut être vraiment sympa en multi, mais aussi pour sa musique donc, que l'on doit à Ryo Nagamatsu, un des nouveaux compositeurs importants de Nintendo qui avait bossé auparavant sur la série Zelda avec A Link Between Worlds. Et si dans A Link Between Worlds, son travail consistait très largement en des réarrangements de musique de Link to the Past, dont il est une suite, dans Triforce Heroes, il a beaucoup plus mis de sa patte avec de nombreuses compositions originales, et ce thème principal de super qualité est normalement parmi les premières qui nous viennent à l'esprit. Est-ce que tu confirmes, Kondo ?
Ouais, direct, moi, Triforce Heroes, il y a deux choses auxquelles je pense, hein, c'est la tenue de panthère de Link et ce thème. Vraiment.
Ah, faut dire qu'elle est, elle est fantastique, hein. D'ailleurs, je l'avais mise en avatar une fois, je sais plus où, je crois que c'était sur Discord, pour déconner.
Même si, du coup, ici, c'est pas, il s'agit pas exactement du thème du Mind Time, hein, il me semble.
Exactement, c'est un arrangement, et je pense qu'une majorité de nos auditeurs se posent la question de d'où qu'il vient, quoi. Et en fait, il vient ni du jeu, sinon j'aurais passé en tant que morceau de BO, ni d'un album, c'est la musique de fond d'un thème 3DS Triforce Heroes. Donc un thème de thème, quoi.
Oh là, bah ça, il fallait chercher, quand même.
C'est celui de l'équipé totémique, qui était offert si on achetait Triforce Heroes sur Nintendo eShop dans un laps de temps d'un mois après sa sortie, et qui est maintenant librement disponible à 2€. Concernant la musique elle-même de sa version in-game, qu'on considérera comme l'original, elle n'a conservé que le violon, mais lui a adjoint un piano, très certainement joué pour de vrai, comme le violon et non virtuellement, vu la qualité de son son.
En tout cas, c'est très doux, hein. On a vraiment l'impression d'avoir une nouvelle version du morceau, mais moins aventureuse, en fait.
Ouais, et malheureusement, je peux pas vous donner d'interprète, ni pour le piano, et ni pour la violoniste. Bon, je sais que c'est une femme, parce qu'on peut la voir dans une vidéo promo du jeu, mais impossible de trouver son identité, et pourtant, c'est pas faute d'avoir voulu me renseigner, je suis allé jusqu'à demander directement à Nagamatsu si lui le savait, ce à quoi il m'a répondu que son Twitter est un espace privé, sur lequel il ne peut pas répondre à des questions qui concernent son travail pro.
Aïe, aïe, aïe. Pourtant, il a fait de l'investigation, hein, mais en même temps, sur un thème aussi obscur qu'un thème officiel qui n'est pas dans le jeu...
Bah, le violon, il est aussi dans le thème principal.
C'est vrai, il a été récupéré probablement.
Oui, c'est exactement le même, hein, bien sûr, c'est la même performance. Et d'ailleurs, à propos du morceau original, je peux vous donner un nom, l'accordéoniste, qui est Yoshiaki Sato.
Qu'on écoute en fond, là.
Ouais, à noter qu'il existe un autre thème 3DS Triforce Heroes, Trio Héroïque, qui lui joue une version du thème avec uniquement le violon et l'accordéon. Comme elle n'était pas super intéressante, c'est la version de base avec des instruments en moins, c'est le duo violon-piano qu'on a privilégié pour le podcast. Le fameux duo gagnant de Kondo, je crois.
On le retrouve toujours. Pour le prochain morceau, on va s'attaquer à un mastodonte dans le domaine des arrangements de musique Zelda, et nous allons écouter une piste de Zelda Reorchestrated. Thank you. Il s'agissait du thème de Burn, le nom anglais de Trockmar, donc un personnage de Spirit Tracks, donc le thème a été composé par Toru Minegishi. Pour en revenir à Trockmar, donc c'est un antagoniste de Spirit Tracks qui a la classe. Il a un foulard qui cache la moitié du visage, une queue de cheval, un bras mécanique extensible, hein, voilà.
Toute la panoplie du perso badass.
Exactement, le bras ténébreux un petit peu, hein, mais personnellement je trouve que c'est le personnage le plus réussi de Spirit Tracks, hein, bien plus que le ministre Kimado.
Kambui, pour les intimes.
Le ministre Kambui, exactement. Donc le morceau provient d'un des nombreux albums issus du projet Zelda et Orchestrated, et là il y a beaucoup de choses à dire, et comme je suis certain qu'on va repasser un de leurs morceaux un de ces jours, je vais éviter d'être exhaustif à leur sujet, parce que Zreo c'est quand même un projet très grosse envergure. Donc à la base, Zelda Reconstructed, c'est un groupe de 5 fans dirigé par Sam Ferrara qui s'était réuni en 2004 afin de démarrer un projet assez ambitieux qui est de réorchestrer l'intégralité de la bande originale d'Ocarina of Time. C'est un boulot qui leur a pris 5 ans et qui donc fut achevé en 2009, sauf qu'entre temps, ce brave Sam s'est dit que ce n'était pas assez et qu'ils allaient élargir le projet en réorchestrant les musiques de tout les Zelda. Alors évidemment, ce ne seront pas les BO intégrales, hein, qu'ils vont réorchestrer, mais le projet a quand même fini par produire plus de 300 musiques, hein, issues de tous les Zelda jusqu'à Skyward Sword, sorti en 2011. À côté, il y eut même d'autres projets alternatifs, comme les Soundscapes, des albums de réorchestration qui rajoutaient des bruits d'environnement afin de donner l'impression d'être dans le lieu où se joue la musique, et une partie de l'équipe a aussi réalisé Radio Hyrule, un site qui fait office de station radio et qui met en avant des covers en tout genre de Zelda, des pistes de Zreo, hein, mais aussi des pistes d'albums trouvés sur internet et donc ils ont demandé l'autorisation de passer en radio. Le but étant de promouvoir les réarrangements de musique Zelda et de donner un moyen aux artistes qui se lancent dans le domaine d'être mis en avant. Et enfin, le dernier travail de Zreo, et je me devais de vous en parler, c'est Twilight Symphony, un triple album sorti en 2012 qui reprend la bande originale de Twilight Princess, mon petit chouchou, sous la forme d'un orchestre symphonique complet. L'équipe a embauché une chorale professionnelle, des solistes, des experts, et le tout a été financé par Kickstarter avec plus de 30 000 $ de collecte. Enfin, je sais pas comment vous le décrire, hein, si ce n'est que c'est 3h30 d'excellence, et probablement une des raisons de pourquoi j'aime autant la musique de Twilight Princess.
Personnellement, je préfère Hero of Time, qui a été dirigé par un ancien de Zreo. C'était pas Zelda Reorchestrated qui s'en était occupé, parce que ça s'est dissous en quelle année?
En 2013, on n'a pas vraiment de raison, mais tous leurs travaux sont encore accessibles en tout cas.
Voilà, et Hero of Time c'est postérieur à ça, et donc c'est des réarrangements de musique d'Ocarina of Time. Alors, chacun sa petite préférence, toi tu préfères Twilight Symphony, moi je préfère Hero of Time.
Bah c'est ça, l'ego et les couleurs.
Je pense que chacun en apportera une piste de son album favori un jour dans le podcast. Allez, à moi, je prends de nouveau la main et je vous propose un morceau qui utilise le thème des bois perdus d'Ocarina of Time de manière assez sympa. JTBS.
Okay.
Ah mais que c'était bon ça, Zelink.
Et ouais, c'était un beat de JTBS qu'il a nommé Green Art, cœur vert, et qu'il a illustré sur ses YouTube et SoundCloud avec un très joli fanart de Saria que je mentionne parce que je l'aime beaucoup. Il a aussi sorti cette piste sur Bandcamp dans l'album XP02.
Ça sent la musique expérimentale tout ça.
Bah en fait non, cet album c'est celui d'ailleurs que je vous recommande le plus au sein de sa grande discographie. C'est dans le même style du coup que le morceau passé, c'est beaucoup de musique avec des samples et notamment de jeux vidéo, et il y en a d'autres de Zelda d'ailleurs, et il est très varié.
Ouais, il y a beaucoup de samples, beaucoup de jeux différents, et surtout beaucoup d'utilisations différentes des samples, c'est un truc que j'avais noté quand j'écoutais l'album.
Ça peut faire vraiment un bon blind test assez ardu.
Exactement, c'est ce qu'on s'est dit en préparation de l'épisode, pour ceux qui aiment le challenge. Bon après le souci c'est qu'il n'y a pas toujours des samples de musique de jeu, donc un peu fourbe.
Il y a du Scooby-Doo aussi, par exemple.
Ah ouais ? Moi j'avais pas reconnu ça.
Ça j'avais retenu. Ou alors c'était pas dans cet album. En tout cas du reste de son Bandcamp, là où il y a la majorité de sa musique, j'ai envie d'évoquer son album de reprise de Sonic Unleashed, qui est sa seule compile spécifiquement dédiée à un jeu, et ses albums plus personnels, plus introspectifs de 2013-2014, qui parlent d'amour, de différence, de lutte. C'est parmi eux qu'on trouve les descriptions les plus détaillées, donc ils doivent être particulièrement importants à ses yeux. Je pense que c'est important que j'en parle. À côté, il a aussi des morceaux qui ne sont que sur SoundCloud ou YouTube, donc je vous invite à aller tout regarder finalement. On peut revenir maintenant sur le morceau que je vous ai passé en espérant que vous n'ayez pas déjà tout oublié de lui. Oups.
Non, vas-y, c'est le moment.
Je vais vous parler plus spécifiquement de son sample, donc des bois perdus. Il a subi deux altérations principales. La première, c'est le ralentissement, parce que le morceau est vraiment rapide de base et que ça va pas trop avec ce style de son, ce qui a causé également une diminution de sa hauteur. Et la seconde altération, c'est la suppression des basses fréquences, pour permettre notamment au kick à la basse de plus s'exprimer dans le mix. La plus grosse différence restante que je vois, c'est que lui, il a le tambourin à droite de la stéréo tout en ayant la mélodie au centre. C'est pas un simple pan complet du morceau, du coup, et je peux pas vous donner la méthode employée parce que j'en suis pas sûr, tout simplement. En tout cas, l'objectif était de mieux répartir le son avec la spatialisation, et donc j'imagine de nouveau, par extension, de laisser de la place, de manière à ce que les percussions qu'il allait ajouter ne soient pas au même endroit. Mais c'est quand on arrive à la deuxième partie du sample, quand le tambourin change de rythme, que ça devient vraiment intéressant puisqu'il l'a découpé puis réarrangé à sa sauce. Pour l'explication, on va se baser sur une partition en 2-4, deux temps par mesure. JTBS a donc d'abord laissé jouer les 16 premières mesures normalement, puis pour la suite de son morceau, il a produit une nouvelle mélodie à partir des mesures 17 à 23 en les déplaçant et copiant. Au lieu donc que soit joué dans l'ordre 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, on entend 20, 19, 18, 17, à nouveau 20, 22, 23, puis à nouveau 17. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il commence par jouer les 4 premières mesures dans le sens inverse, ce qui est une technique très simple qui sonne pas mal en général si les mesures forment des unités relativement indépendantes comme ici, et qui peut donc être à tenter si on sait pas comment aborder un sampling. Sinon, pour le reste de la piste, j'apprécie particulièrement les OK en réponse au Hey Listen de Navi, et qu'on a failli manquer de peu puisque JTBS l'a ajouté à la dernière minute, et le piano, instrument qu'il utilise beaucoup dans sa musique puisqu'il en joue lui-même. D'ailleurs, avant de terminer, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de laquelle je tiens cette info, très récente, où il montre et explique la réalisation d'un remix du thème de l'Arbre Mojo d'Ocarina of Time.
On va rester avec le sampling et on va s'écouter Open Your Eyes de Lil Tomij. Écoutez bien. Thank you. pas mal, hein.
Bah, moi j'aime beaucoup, hein. Franchement, tu sais comme j'aime la manipulation de samples, alors ça me parle comme musique.
Évidemment, c'est ton truc, ça. C'était donc Open Your Eyes, un remix de Breath of the Wild réalisé par Lil Tomige. Alors bon, vous l'avez peut-être deviné, hein, c'est pas un arrangement d'un morceau en particulier, mais du jeu en général. C'est une sorte de pêle-mêle de sons tirés du jeu, avec des échantillons de musique, mais aussi des voix et des bruitages sonores. Donc l'artiste, Lil Tomige, adore réaliser des musiques de ce style basées sur des jeux vidéo. Il en a fait par exemple sur Celeste, Dark Souls, Journey, etc. Alors il a fait vraiment sur plein de genres différents. Et à chaque fois, il parvient à rendre quelque chose de très doux à partir des sons de ses jeux. Et ça, c'est assez balèze. Hein. Et encore, pour Breath of the Wild, il annonçait lui-même sur son Patreon que c'était la musique sur laquelle il avait pris le plus de samples. Donc ouais, c'est vraiment un style de musique assez unique. Hein. Et en fait, voilà, il y a une histoire un petit peu particulière derrière ça. Donc on va quitter un petit peu Zelda pour parler de musique plus générale. Et comme, bon, les genres dans les musiques modernes, c'est compliqué, on va faire un rapide retour aux sources. En fait, depuis les années 70, avec l'émergence du hip-hop puis du rap, on entend de plus en plus de samples dans les musiques. Donc un sample, c'est un échantillon sonore, généralement tiré d'une musique que l'on réutilise dans un autre morceau pour faire un rythme, un fond sonore, une mélodie, etc. Comme on vient d'entendre. Hein. Sauf que dans le hip-hop en général, on ne passe que peu d'échantillons à la fois afin d'obtenir un son stylisé. Certains musiciens ont donc voulu prendre une ou plusieurs musiques et en repiquer un peu de tous les passages en modifiant la vitesse, en rajoutant des effets ou des sons, et ce à l'aide de tables de mixage. C'est ce qu'on appelle le turntablisme. Et c'est un petit peu le papa de tous les genres de mixage de samples qu'on connaît aujourd'hui. Et on va rentrer encore un peu plus dans les détails en parlant du micro-sampling. Le micro-sampling, il s'agit de récupérer des échantillons sonores extrêmement courts, hein, comme son nom l'indique, de la taille d'une note ou d'un son. Ces mini-échantillons serviront alors à recréer intégralement une musique qui n'aura généralement rien à voir avec le matériau initial. Et ce genre-là, ça s'appelle le plunderphonics, et c'est un cousin lointain du turntablisme, et c'est typiquement ce que vous venez d'écouter. C'est pas un genre très connu, mais si vous en voulez plus, je vous recommande d'aller écouter John Oswald, le père du plunderphonics, c'est lui qui a nommé ce genre ainsi, avec le nom d'un de ses albums, mais surtout aller écouter Pogo, un musicien de plunderphonics qui est bien plus proche de ce qu'on vient d'écouter actuellement, puisqu'il fait des musiques très planantes avec un travail tout particulier sur les voix. D'ailleurs, c'est probablement une des inspirations de Lil Tomige, hein, vu comment, voilà. C'est un genre très peu répandu et vraiment les deux styles se ressemblent beaucoup.
Ouais, et puis Pogo, il utilise des extraits aussi d'œuvres. Enfin, lui, c'est plutôt, je crois, des dessins animés, Pogo, ou des séries.
Ouais, les Disney. Il y a beaucoup de Disney chez Pogo.
Alors que là, c'est du jeu vidéo principalement.
Voilà, mais vraiment, le style est le même, donc si vous avez aimé, hein, allez écouter Pogo, c'est une très bonne référence.
Allez, cette fois, c'est moi qui commence avec les pistes de BO, avec une sur laquelle je préfère ne rien dire pour l'instant, parce que je vous laisse prendre vos paris sur le premier Zelda qu'il a contenu. Eh bien, ce morceau s'appelait The Legend of Zelda Orchestra Piece Teaser Music numéro 2, et le seul opus dans lequel il est présent, c'est Twilight Princess HD.
Ça sent un petit peu quand même, hein. Ça sent le Twilight Princess dans ce qu'on entend.
Mais le HD, je suis pas sûr que tu l'avais.
Mais comment ça se fait? Parce que normalement, pour Twilight Princess HD, ils ont parfait l'OST.
Bah, en fait, pour que tout le monde comprenne, on va remonter le temps jusqu'au moment de la préparation du trailer de Twilight Princess, l'original, pour le 3 2005. Trois musiciens comprenant Koji Kondo sont alors chacun chargés d'écrire une musique d'accompagnement. Ces compositions sont ensuite arrangées pour orchestre par Mitch Ichiro Oshima, un grand honneur pour Kondo qui lui vaut une forte admiration, puis enregistré avec un ensemble dirigé par Taizo Takemoto, un chef d'orchestre dont le nom ne vous est pas forcément familier mais qui a quand même été à l'œuvre sur un concert Smash Bros en 2002, puis plus tard entre autres sur les deux derniers concerts Zelda du Japon, celui de 2018 et celui des 30 ans de la série, et le concert Kirby des 25 ans. Moi c'est la deuxième de ces compositions que je vous ai passée, mais parlons d'abord du coup du premier morceau des trois. Il a été écrit par Maito Yokota, qui aujourd'hui a bossé sur une grosse partie des Mario 2D et 3D de Galaxy à Odyssey et sur Skyward Sword.
Ouais, c'est pas rien quoi.
On trouve associé à ce morceau également le nom de Koji Kondo, puisque le thème de la berceuse de Zelda y fait une apparition, et c'était bien le morceau de Yokota. Cette première musique, c'est celle qui a été retenue donc pour le trailer de Twilight Princess de l'E3 2005, mais elle a également fini dans le jeu, puisqu'elle se joue lors de la séquence vidéo qui se lance quand on attend à peu près une minute 20 sur l'écran titre.
Ah ouais ?
Oui, c'est pas le trailer de l'E3 2005 qui se joue, mais c'est la même musique en tout cas. Cette musique, elle a pas présente dans la version HD/Wii U du jeu parce qu'ils ont tout simplement supprimé cette séquence, ce qui est juste dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y étaient attachées. Ensuite, la deuxième musique écrite pour le trailer de l'E3 2005, celle que j'ai choisi de vous faire écouter parce qu'elle est moins connue que la première, c'est celle qu'a intégralement composée Koji Kondo. Comme elle n'a pas été employée dans le trailer, logiquement, sa première apparition lui est postérieure. Et d'après ce que j'ai trouvé, comme elle n'est pas présente dans le jeu non plus, ce serait dans l'album sobrement intitulé The Legend of Zelda Twilight Princess Official Soundtrack, daté de la sortie du jeu sur Wii en Amérique, et qui existe en version 6 ou 7 pistes, ce qui est un peu...
Ouais, ce qui est pas vraiment une soundtrack, quoi.
Ce qui est faible pour une official soundtrack, quoi.
Ouais, clairement, il manque, je sais pas moi, 70 morceaux, là, clairement.
Non, mais attends, t'es dingue, il en manque beaucoup plus que ça, hein. Mais en fait, c'était une sorte de sound selection, mais... Enfin, même pour une sound selection, c'est faible.
Ils ont vraiment pris le meilleur de l'OST.
Bah, tu me diras, parce que je vais te dire les pistes après. Donc, la version 6 pistes, elle faisait partie d'un bundle vendu en magasin, tandis que la 7 pistes était un cadeau promotionnel du magazine Nintendo Power. Donc, leur tracklist Kondo est constituée des thèmes d'Iria, de Midona, de la plaine d'Hyrule, du village Cocorico et de la montagne de la mort, de l'orchestra piste numéro 2, et pour le CD de 7 pistes, qui a donc une piste de plus que l'autre, du thème du village de Toal.
Ouais, bah voilà, c'est ce que je dis, quoi, c'est vraiment le must.
C'est vraiment les meilleures pistes.
Bah, c'est les plus connues, en tout cas, enfin, c'est les plus populaires, on va dire.
Ouais, j'avoue qu'elle est pas dégueu, cette sélection, pour du 6-7 pistes.
Ah, il en manque quand même, après.
c'est clair. Donc ensuite, la dernière minute de cet arrangement a refait surface dans la version complète du premier trailer de Skyward Sword à l'E3 2010. Un recyclage qui aurait pu faire mauvaise impression, mais ils ont dû se dire que cette musique était suffisamment obscure pour qu'une large majorité la découvre avec ce trailer, ce qui, il me semble, a été le cas. Et finalement, on l'a retrouvée complète dans Twilight Princess HD, parce que cette fois, contrairement à l'orchestra piste numéro 1 dont j'ai évoqué l'absence plus tôt, elle est dans le jeu. On l'entend dans les crédits consacrés au staff du portage uniquement, rajoutés après les crédits présents dans les versions originales. On la trouve également sur les CD qui ont été faits à l'occasion de ce portage. Il y avait une sound selection et une official soundtrack, mais cette fois vraiment digne de son nom.
Ouais, bien plus complète, je sais. Elle a totale peut-être même, non ? Il me semble.
Faudra vérifier, ça je peux pas l'affirmer, mais en tout cas quasiment tout ou tout. Enfin, pour ce qui est du troisième morceau écrit pour le trailer, et bah rien, parce qu'il a jamais été publié et on a strictement aucune info spécifique dessus, pas même son compositeur. Et personnellement, je suis trop curieux de savoir à la fois qui était derrière et à quoi ça ressemblait, parce que je pense qu'il suffit de voir la qualité des deux premiers morceaux pour avoir envie d'écouter ce troisième.
Mais oui, franchement, bon, s'ils l'ont pas pris, c'est peut-être pour une raison, mais quand même, vraiment, vu le niveau des deux autres, je suis très curieux de voir ce que ça a pu donner pour un morceau trailer de The Princess. Surtout le meilleur, quoi.
Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de croiser les doigts pour que ça sorte un jour.
C'est peu probable, mais on peut toujours espérer. Nous arrivons enfin à la piste proposée par un auditeur. Auditeur qui, pour cet épisode, sera une auditrice du nom de Citari et qui nous a proposé donc un morceau de The Consoles intitulé Kokiri Forest, donc de la piste Kokiri Forest d'Ocarina of Time. Voilà, donc Kokiri Forest, le thème de la forêt Kokiri d'Ocarina of Time, repris par The Consuls en version smooth jazz. On a bien pu sentir le côté smooth du morceau, pas vrai, Zelink ?
Totalement, on était ultra détente là. Ça fait plaisir quand même.
Le verre de lait en main.
Merci Sitari.
Merci Sitari, bien sûr. Donc Sitari nous a proposé ce morceau accompagné d'un petit texte que je vais vous lire tout de suite qui présente un petit peu les Consuls. Il s'agissait donc d'une reprise du thème de la forêt Kokiri, qui nous est proposée par la chaîne The Consuls, qui est un collectif de plusieurs musiciens qui reprennent des musiques de jeux vidéo en version jazz. De Persona à Dragon Quest, du bebop au jazz fusion, ils s'efforcent de proposer une nouvelle reprise au minimum toutes les deux semaines, et ce depuis plusieurs années. Beaucoup de leurs vidéos sont en cours de re-upload sur leur chaîne, mais ils ont déjà plus de 250 reprises de jeux vidéo à leur actif, dont une bonne dizaine de la série Zelda. Jazz oblige, on retrouvera dans cette reprise, ainsi que dans bien d'autres sur leur chaîne, du piano, une basse, une batterie et un inévitable saxophone qui va jouer cette mélodie si connue des fans de Ocarina of Time. La structure du morceau reste globalement similaire, bien que plus posée, et se retrouve agrémentée de quelques sympathiques solos improvisés de la part du piano et du saxophone. De quoi donner un ton très rafraîchissant à un thème classique d'un jeu qui l'est tout autant. Donc merci à toi Sitari de nous avoir proposé ce morceau, hein, donc le premier de ce format, et merci aussi pour ce texte très complet, hein, qui vraiment ressemble à un autre texte en fait.
Franchement, si un de nous deux tombe malade un jour, on t'appelle pour le remplacer, parce que tu fais un bon job. Même si je suis pas d'accord, parce qu'en matière de solo de piano, ils ont quand même déjà fait mieux.
C'est vrai, c'est vrai. Là, bon, y a pas vraiment de solo de piano, mais voilà, Consuls, c'est vraiment... S'il y a quelque chose qu'il faut retenir des Consuls, c'est vraiment ces solos qui sont assez exceptionnels. Du coup, je vais en revenir vite fait au groupe. Donc Consuls, c'est un groupe australien qui joue pas mal dans les conventions et autres événements de la culture pop en Australie, et qui a pas mal d'albums de compilation à son actif, à peu près une dizaine, il me semble. Ils ont d'ailleurs sorti, il y a quelques mois, leur premier album intégralement enregistré en studio intitulé Game and Jazz, dans lequel il y a du très très lourd. Et enfin, ils ont aussi réalisé une tournée au Japon l'année dernière, donc ouais, voilà, on sent qu'en ce moment, ils ont le vent en poupe.
Sinon, juste avant de passer à l'annonce du morceau suivant, j'avais envie d'évoquer le SoundCloud de Sitari, Sita, S-Y-T-2-A-H, sur lequel ses dernières publications sont en majorité des medleys improvisés au piano de musique de jeux vidéo, qui peuvent être très sympas.
Voilà, petit coup de pub gratuit, merci à toi Sitari.
On est dans un podcast de musique, donc si nos invités ont des activités musicales, pourquoi pas leur faire un petit coup de pub, je trouve. Je vous propose maintenant, pour continuer, de la musique électronique, et je vous propose d'essayer de deviner cette fois ce qui m'a inspiré à mettre ce morceau dans le podcast.
Thank you.
Alors déjà, Kondo, quel morceau, non ?
Mais quel morceau impressionnant. J'ai l'impression d'avoir entendu des millions de fois, et pourtant, à chaque fois que je l'écoute, voilà, c'est la surprise.
Oh là là, la mauvaise langue. Non, franchement, il est trop trop bon, et je suis très content d'avoir pu vous le passer, moi.
Mais oui, mais il est excellent.
Mais je suis d'accord que le remix électro Zelda, surtout, un arrangement du thème principal, finalement, donc je suis d'accord. Et du coup, pour, en quelque sorte, la réponse à la question que je vous avais posée, eh bien, c'est l'annonce de Cadence of Hyrule, prochain spin-off Zelda par les créateurs du très cool Crypt of the Necrodancer, et plus précisément, le remix électro qui l'accompagnait du thème de la montagne tartare de Link's Awakening, qui m'a donné envie de passer lui dans le podcast.
Nous, on est tout impatients, là, on attend vivement une annonce de date de sortie, ou même juste une sortie, pour pouvoir écouter les arrangements de Danny Baranowski, hein, le compositeur du premier Crypt of the Necrodancer.
Les 25 remixes prévus, oh là là. Non, mais le mois où il sort, on en passe. Ou le mois d'après, ça dépend quand il sort dans le mois. Mais vous pouvez vous préparer à ça déjà. Donc celui-ci, comme le remix de Cadence of Hyrule, c'était un remix EDM du thème de la montagne tartare de Link's Awakening, qui on peut aussi le noter s'ouvrait sur le title theme du premier Zelda. Il a été réalisé par Bitonal Landscape, un groupe virtuel d'Alien. Un groupe virtuel, c'est un groupe dont les membres sont fictifs, comme Gorillaz, que je prends pour exemple parce que c'est le plus célèbre. Leur production à Bitonal Landscape, c'est essentiellement des compos originales sous la forme d'un mélange de chiptune et d'électro, avec donc beaucoup d'inspiration musique de jeu de temps. Pour ce qui est de leur remix revendiqué vraiment de musique de jeu, j'en ai vu seulement 6, les 5 qui constituent leur album au nom éloquent de Remixes sur Bandcamp, et la première piste de Spin Dash 3, le troisième album d'une série du label Game Shops.
Et je parie que c'est du Sonic.
Ouais, exactement, comme son nom le fait deviner, il est composé de remix de morceaux de la série Sonic. Si je devais faire un top 3 de ce que je préfère de Bitonal Landscape, dans l'ordre par lequel je les ai écoutés, je mettrais Underland, le remix d'Undertale, qui est un build-up d'une puissance phénoménale. Franchement, il m'a vraiment foutu des frissons, je vous jure. Et rien que pour la première minute 30, faut que vous alliez l'écouter.
Écoutez-le, mais écoutez surtout Mega Buster, qui est mon préféré personnellement. Hein. Un arrangement de 8 minutes de musique de Megaman. Chacun son petit favori, mais allez écouter les deux, vraiment. De très bonne facture.
Tout à fait. Moi, 8 minutes, à la fin, j'ai commencé à décrocher, mais il est vraiment bon aussi, bien sûr. Le deuxième morceau de mon top 3, c'est celui que j'ai mis en tapis pendant que je vous parle, Impossible Polygons, qui conclut leur album Exabyte Volume 1. Et ce qui est marrant, c'est que dans le premier numéro du podcast, j'ai parlé d'un morceau de Chiptune Drum and Bass, dans le deuxième d'un morceau de Liquid Drum and Bass, et là on pourrait appeler ça de la cheap liquid drum and bass en fait. Je déconne même pas.
toujours plus. Il faut rajouter des noms, rajouter des préfixes, rajouter des suffixes. On invente des genres, c'est la magie de la musique électronique.
Bah écoute, on prend des sous-genres, on les fusionne et on reprend ces fusions de sous-genres pour les refusionner. Et après on fait de la musique vraiment originale, tu vois.
Voilà, et ça c'est le 21ème siècle.
Et le dernier morceau de mon top 3, c'est le dernier single de leur bandcamp à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre, Venus Gold, qui est vraiment à part dans ce qu'ils ont pu faire. Il sonne bien plus organique que le reste et il est carrément susceptible de plaire à tous ceux qui n'y ont pas accroché à mon avis.
Bon, et bien ça y est, Zelink, je crois qu'on a fait le tour de tous les arrangements qu'on avait passés pour cet épisode. Donc il ne nous reste plus que deux morceaux, hein. Tu t'occuperas donc du hors-sujet. Et moi, il me reste un morceau de BO. Alors je vais vous demander de faire un petit peu attention à l'ambiance du morceau. On va passer tout de suite le thème Majora's Meeting de Majora's Mask. Thank you. Nous venons d'écouter l'inquiétant thème de Myers Meeting, le thème de la réunion du maire dans Zelda Majora's Mask. C'est un thème que l'on entend dès que l'on rentre dans le bureau du maire de Bourg-Clocher, puis qui se déroule continuellement un débat assez tendu. Pour rappel, dans Majora's Mask, la lune est en train de tomber sur le monde de Termina, et c'est la panique, alors les gardes et les membres du comité du carnaval sont en train de polémiquer avec le maire pour décider ou non d'évacuer tous les habitants.
Sachant que nous, on reste toujours au bar jusqu'à la fin avec de la bonne musique.
Et du bon lait.
Donc voilà, si vous savez pas quoi faire, venez chez nous, on mourra ensemble mais heureux.
Une belle fin du monde. Enfin, la fin du monde, ça va pas être super pour le maire parce que lui, il va passer 3 jours à écouter 2 autres personnes s'engueuler sans savoir quoi faire. Il est incapable de prendre une décision tant qu'on ne fait rien. Et tant qu'on ne fait rien, ça veut dire que si on ne fait rien, il passera 3 jours entiers à débattre, le pauvre. Ce qui explique aussi un petit peu quand la musique était vraiment longue et oppressante, interminable en fait, dans un sens. Et il se trouve d'ailleurs que Koji Kondo, c'est une petite anecdote ça, le compositeur principal de Majora's Mask, a déclaré dans une vieille interview au magazine japonais Game Maestro que Myers Meeting était un thème composé à la dernière minute pour le jeu. Pour être exact, on lui a demandé de modifier la musique qu'il avait déjà composée, car l'ambiance n'allait pas du tout apparemment. Il avait donc une contrainte de temps et de place, car la cartouche du jeu avait presque plus de mémoire libre à la fin du développement, et résultat, c'est selon lui sa piste la plus réussie du jeu, car elle correspond parfaitement à l'ambiance de cette réunion. C'est marrant quand même, parce que ça démontre un peu l'idée selon laquelle les contraintes favorisent la créativité des musiciens.
La créativité des artistes tout court, c'est Majora's Mask l'exemple.
Oui, mais voilà, on a encore une preuve que cette idée...
Ouais, même dans les briques qui composent Majora's Mask.
Ouais, on a encore un exemple qui appuie cette idée. Et bon, comme il s'agit de mon morceau de PO, si vous commencez à me connaître, maintenant c'est aussi le bon moment pour faire un petit peu d'analyse musicale.
Ah,
écoutez bien, aujourd'hui on va parler cadence. Une cadence, c'est un enchaînement particulier d'accords qui sert à structurer une musique. On fait d'ailleurs souvent l'analogie entre les cadences et la ponctuation, parce que je sais que Zelink aime bien la ponctuation et l'orthographe, donc ça devrait lui parler.
Ah mais c'est quoi ça?
J'espère que ça va te parler.
Tu me call out publiquement comme ça là, genre j'ai rien demandé.
Tu vas adorer les cadences, tu vas voir. Dans la plupart des morceaux, toutes les notes d'une gamme par exemple peuvent être associées à un degré, c'est-à-dire un nombre qui représente sa position dans la gamme. Par exemple dans une gamme de Do, le Do c'est le premier degré, le Fa c'est la 4e note, du coup c'est le 4e degré, le Sol c'est le 5e, etc. Vous avez compris l'idée. Une cadence, c'est passer d'un degré, d'accord, à un autre. Et certaines cadences du coup donnent un effet un peu particulier, qui sont plus remarquables que les autres. Donc pour en revenir au thème du maire, là notamment la première partie du morceau est une alternance continue de premier et de cinquième degré. C'est ce qu'on appelle une cadence imparfaite. Pour en revenir à la ponctuation, c'est l'équivalent d'un point virgule, c'est-à-dire qu'elle donne l'impression d'un repos qui ne dure pas, une sorte de fausse pause, comme pour imager le débat qui s'enlise.
Ah d'accord, donc le parallèle avec la ponctuation, c'était pas juste gratuit, ça me rassure.
Ah non, c'est vraiment c'est quelque chose qui se fait assez souvent dans la théorie musicale, le parallèle en ces deux-là, parce que c'est vraiment les cadences servent à structurer un morceau en fait. Dans la deuxième partie du morceau, après on entend à la place des cadence plagale, c'est-à-dire un passage du quatrième au premier degré. Normalement, c'est un son de point final à la musique, comme pour dire « le débat est terminé, messieurs, on ne va pas en parler 3 jours non plus ». Et pourtant, la partie se conclut sur un passage du quatrième au cinquième degré, c'est-à-dire une demi-cadence, et celle-ci, c'est l'équivalent d'une virgule. Elle marque une suspension avant de finir la boucle et de recommencer la piste, en mode « et c'est reparti, on ressort les arguments ».
C'est reparti pour un tour.
Exactement, c'est un peu indéfini. C'est vraiment, c'est une structure qui montre la répétitivité et la longueur du morceau. Vraiment, en se mettant à la place du maire, on a de la peine pour lui. Surtout quand il parle de sa femme. parce que le...
Ça, c'était gratuit.
complètement, parce que le débat se termine sur « Laissez ma femme en dehors de tout ça ». C'était une phrase assez mémorable.
Une citation culte. Ou qui devrait être culte.
Propageons-la.
Pour cette dernière piste, là hors sujet, on va cette fois-ci, je pense, moins surprendre que les fois précédentes, puisqu'on vous propose Concerto for Philodendron and Pothos, tiré de l'album Plantasia. Et si vous connaissez pas, tendez l'oreille. Concerto for Philodendron and Pothos, donc, de l'album Plantasia, sorti en 1976. Record d'ancienneté battu pour un morceau du podcast. Et en 1976, Zelda existait même pas, donc... on va venir au supposé lien après, en fait. Le compositeur derrière, c'était le Canadien Mort Garson, dont Plantasia était le dernier album. Ensuite, apparemment, il a beaucoup bossé sur des musiques de films. C'est un des premiers à la fin des années 1960 à s'être emparé des synthétiseurs Moog pour les intégrer dans sa musique. Et Plantasia, ça en est un très bon exemple. Mais c'est surtout un très bon album qu'on vous conseille sincèrement si vous en aviez jamais entendu parler.
C'est très détente et Dieu sait que Zelink aime le chill, alors forcément, il a beaucoup aimé.
Et c'est un album qui avait pas fait beaucoup parler de lui à l'époque, donc c'est étonnant de prime abord de lui voir récolter autant de succès sur Internet. Et ça s'explique par le fait que les algorithmes de YouTube aux voix impénétrables l'ont beaucoup recommandé, comme en témoignent de nombreux commentaires que j'avais pu lire.
Ouais, c'est pas la première fois que ça arrive. Par exemple, il y a eu Plastic Love de Maria Takeuchi, je sais pas si tu connais.
Ouais, et puis par exemple aussi l'album Scenery de Ryo Fukui.
Voilà, donc bon, les voix de YouTube sont impénétrables.
Comme je l'ai dit. Les commentaires que j'avais pu lire, d'ailleurs, ils ont disparu parce que le plot principal de l'album, celui qui cumulait le plus de vues, a été supprimé il y a peu de temps. Ce qui n'est évidemment pas une coïncidence avec l'annonce d'une réédition de l'album par Sacred Bones Records, qui propose d'ores et déjà une version numérique en téléchargement, mais aussi des précommandes d'un CD et de vinyle avec une sortie prévue pour le 21 juin 2019. Et si vous ouvrez la description de la page Bandcamp, vous y verrez une mention de The Legend of Zelda.
Tiens donc.
Enfin, nous y voilà. Il y a un passage dans le morceau que je vous ai passé qui fait fortement penser à la berceuse de Zelda, une suite de 6 intervalles, très exactement. Mais est-ce que c'est suffisant pour parler de samples comme avec le hors-sujet de la dernière fois? Cette fois, je pense que non, c'est beaucoup moins certain. D'ailleurs, sur WhoSampled, qui est un site qui répertorie les samples utilisés dans les musiques, vous ne trouverez pas ce lien référencé, contrairement à celui entre Gerudo Valley et Dodge Danpei.
Alors, pourtant, on l'entend assez clairement, donc franchement, ce serait pas si étonnant que ça que Koji Kondo l'ait repris.
Non, effectivement, mais moi, je suis de ceux qui disent que c'est pas certain. Donc, quand je lis dans la description de Sacred Bones sur Bandcamp que Mort Garson n'a jamais été correctement crédité pour l'emploi d'une de ses mélodies dans Zelda, ça me laisse dubitatif. Surtout qu'il parle du premier Zelda sur la NES en 1986, alors que la berceuse de Zelda, elle est apparue dans le troisième Link to the Past en 1991.
Ah oui. Bon, déjà, c'est mal recherché.
Donc sur le plan du je sais de quoi je parle, on n'est pas au top, quoi. Et personnellement, je flaire fort l'argument commercial opportuniste et je reste sur ma position de on n'en sait rien. Peut-être qu'il y a eu une inspiration, peut-être pas. Dans tous les cas, c'est loin d'être du plagiat, franchement.
Tout au plus un clin d'œil, mais vraiment...
Juste une inspiration, quoi.
Ouais, sur 6, cette note, franchement, on peut pas vraiment dire que c'est du plagiat.
Ça arrive, les coïncidences comme ça.
Ouais.
C'est pas si rare qu'on pourrait le croire. Et si vous voulez plus de musique similaire à Plantasia, je vous conseille d'abord les autres albums post-Moog de Mort Garson, voire les albums avec du Moog en général. Et c'est con à dire, mais les BO du jeu 7 bits aussi, parce que si beaucoup voient en Plantasia une production en avance sur son temps, c'est notamment grâce à cette ressemblance. Mais ce qu'il existe de plus proche, du moins dans le concept, je pense que c'est le petit disque de la musique et des secrets pour enchanter vos plantes, sorti 2 années plus tard, en 1978, composé par le français Roger Roger. Parce que oui, il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de vous dire, c'est que Plantasia, c'est de la musique à la fois faite pour les humains, mais aussi pour leurs plantes, sur la base de pseudo-sciences, évidemment. Et le livre qui vient avec de la musique et des secrets pour enchanter vos plantes, il est vraiment hilarant. Là, j'ai un PDF sous les yeux de quelques-unes de ces pages qui ont été scannées. Et pour finir en beauté, je vais vous lire quelques-uns de ces passages. C'est des photos avec des descriptions. Alors, un polygraphe, communément appelé détecteur de mensonges, branché sur une plante, montre que celle-ci lit les pensées des hommes et réagit à tous les sentiments. Haine, amour, peine. Une plante peut s'attacher de façon tout à fait extraordinaire à son maître. Ainsi, le généticien Luther Burbank désarma son cactus en l'assurant de son amour et en le convainquant de l'inutilité de ses défenses puisqu'il assurait sa protection. Et la meilleure que j'ai trouvée, un japonais, le professeur Ken Hashimoto, docteur en philosophie et en sciences, réussit à établir un dialogue unique à ce jour avec son cactus après lui avoir appris à compter jusqu'à 20. Non mais c'est incroyable, je me demande vraiment s'il y a des gens qui ont réussi à y croire, quoi.
Ouais, donc c'est vraiment un truc pour les plantophiles, je ne sais pas comment ça se dit, mais...
Sachant que là où j'ai trouvé le PDF, ça parlait aussi d'utiliser les plantes pour lutter contre ses pulsions sexuelles et ses désirs gays. Ça va jusque là, quoi.
Ouais, c'est un certain délire, mais ça reste drôle quand même.
C'est surtout très ridicule. Et voilà, c'était mon dernier morceau, donc le hors-sujet. Et comme d'habitude, ça conclut l'émission. J'espère que vous avez apprécié notre musique, les verres de lait que je vous ai servis tout à l'heure, en espérant que j'ai été assez rapide pour qu'ils soient bien chauds.
Et malheureusement, c'est bientôt l'heure pour le Milk Bars de fermer ses portes et de rouvrir, comme à chaque fois, dans un mois, tout pile.
Donc on passe au remerciement, n'est-ce pas ?
Et oui, merci à vous de nous avoir écoutés en entier. Merci à Yorick aussi pour l'avoir fait la patte graphique et l'habillage du Twitter, ainsi que le logo. Et enfin, merci à Citari pour nous avoir proposé donc le morceau sur ce nouveau format qu'on rajoute dans le podcast.
D'ailleurs, vous pouvez être la prochaine Citari à passer un morceau dans le podcast en nous envoyant des suggestions soit sur Twitter à @milk-bars en message privé, soit par courriel à milkbars.podcast@gmail.com. Et nous, ça nous fera toujours de nouveaux morceaux pour enrichir nos stocks, donc ça nous fera plaisir.
Effectivement, notre boîte aux lettres est toujours ouverte. Donc il est l'heure pour nous dire au revoir. Nous, on va s'occuper de débarrasser les tables et de nettoyer le comptoir. Ça rime, c'est magnifique. Et on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode du podcast, le numéro 4, si tout va bien. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Plein de bonnes choses pour vous. Ciao, ciao, ciao.
Avis de recherche. Une des vaches de Madame Crémia, notre fournisseuse de lait, a été perdue. Si vous croisez une vache blanche avec des taches noires qui fait environ 1m40, veuillez nous contacter. C'est probablement celle que nous recherchons. Merci d'avance.